Chapitre 5, Agent de Satan. Satan enrôle des hommes et des femmes pour s'en servir comme séducteurs et pour rendre le péché attrayant. Il leur apprend soigneusement l'art de camoufler le péché afin de perdre plus sûrement les âmes et priver le Christ de sa gloire. Satan est le grand ennemi de Dieu et de l'homme. Par ses suppôts, il se transforme en ange de lumière. Dans l'Écriture, il est appelé destructeur, accusateur des frères, trompeur, menteur, tortionnaire et meurtrier. Satan a beaucoup de gens à son service, mais c'est quand il peut enrôler sous ses bannières des chrétiens de profession qu'il a le plus de succès. Plus grande est l'influence de ces derniers, plus élevée leur position, plus éclatante leur profession de connaître Dieu et de le servir, plus ils lui sont utiles. Quiconque cédait le pas au péché se fait l'agent de Satan. À mesure que nous approchons de la fin de l'histoire du monde, les périls et les dangers augmentent autour de nous. Une simple profession de piété ne suffit pas. Il nous faut une étroite communion avec Dieu, afin que nous puissions discerner clairement la méchanceté qui, d'une manière insidieuse et secrète, se développe dans nos milieux par ceux qui prétendent être des nôtres. Les plus grands péchés sont introduits dans l'Église par des gens qui se disent sanctifiés et qui prétendent ne plus pouvoir faire le mal. Pourtant, dans cette catégorie-là, nombreux sont ceux qui pêchent tous les jours, et qui sont corrompus dans leur cours et dans leur vie. De tels membres sont des propres justes et ils sont tout à fait en dehors du modèle que la Bible leur propose d'imiter. Malgré leurs audacieuses prétentions, ils sont étrangers à l'alliance de la promesse. C'est avec une grande miséricorde que le Seigneur supporte leur perversité et qu'ils ne sont pas enlevés du terrain qu'ils encombrent. Il leur reste encore quelques possibilités de pardon. On croit que la patience de Dieu n'a pas de limite, on présume trop d'elle. On abuse de la miséricorde divine. Celui qui vit dans l'injustice et qui, par une vie inconstante, violente journellement la vérité bien que prétextant croire en elle, se met au service de Satan et mène des âmes à la ruine. Tous ceux qui lui ressemblent collaborent avec les anges déchus qui leur viennent en aide pour dominer sur les esprits. Or, quand la puissance du diable contrôle une personne, Dieu est oublié, et l'homme qui est animé d'intentions coupables est exalté. La licence secrète est pratiquée comme une vertu par ces âmes séduites. C'est une sorte de magie. On peut alors poser la question de l'apôtre Paul aux Galates, « Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Il y a toujours une puissance ensorcelante dans les hérésies et dans la licence. L'esprit a été tellement faussé qu'il ne peut plus raisonner intelligemment. L'illusion l'éloigne sans cesse de la pureté. La conception spirituelle s'obscurcit et des personnes qui jusque-là étaient d'une haute moralité en arrivent à voir tout confusément sous l'action des sophismes de ces agents de Satan qui se disent des messagers de lumière. C'est cette illusion qui leur donne de la puissance. Si ces agents se révélaient ouvertement, ils seraient repoussés sans hésitation. Mais ils cherchent d'abord à gagner la sympathie et à faire croire qu'ils sont des messagers divins, sanctifiés et désintéressés. Ils commencent alors leur œuvre insidieuse qui consiste à détourner les âmes du droit chemin en essayant d'annuler la loi de Dieu. Lorsque des prédicateurs, profitant de la confiance que les membres ont placée en eux, conduisent des âmes à la perdition, ils se rendent d'autant plus coupables que leur position est plus élevée. Au jour de Dieu, quand le grand livre sera ouvert dans le ciel, on constatera que beaucoup de prédicateurs qui ont prétendu avoir une vie et un cours pur et être chargés de prêcher l'évangile du Christ, ont pris avantage de la position qu'ils occupaient pour entraîner des âmes à transgresser la loi de Dieu. Esprit méchant dans les lieux célestes. Quand des hommes et des femmes tombent sous la puissance corruptrice de Satan, il est presque impossible de les tirer de cet horrible piège et de les amener à avoir dorénavant des pensées pures et une claire conception des exigences divines. Le péché a été sanctifié à leur esprit perverti par le prédicateur, et ils ne verront plus jamais ce péché dans son horreur, comme Dieu le voit. L'idéal moral est ainsi rabaissé dans l'esprit humain, le jugement faussé, le péché pris pour la justice, et inversement. En s'associant à ceux dont les habitudes et les tendances ne sont pas pures, On leur devient semblable. On adopte presque inconsciemment leurs goûts et leurs principes. Si la compagnie de celui dont l'esprit est souillé et qui vit dans la licence est choisie de préférence à celle des gens vertueux et purs, c'est un surindice que les goûts et les inclinations s'harmonisent et que le niveau moral des intéressés est bien bas. Ce niveau de vie est appelé par ces êtres séduits et infatués d'eux-mêmes, une haute et sainte affinité de l'esprit, une harmonie spirituelle. Mais l'apôtre y voit l'action des esprits méchants dans les lieux célestes, esprits contre lesquels nous devons nous défendre avec énergie. Lorsque le séducteur commence son ouvre trompeuse, il rencontre fréquemment une dissemblance de goûts et d'habitudes chez les personnes qu'il convoite. Mais par de grandes prétentions à la piété, il gagne leur confiance. Après quoi, il exerce sa ruse et sa puissance séductrice pour aboutir à ses fins. À son contact, des femmes s'habituent à vivre dans une atmosphère d'impureté. Elles perdent leur personnalité et s'imprègnent insensiblement de l'esprit de leur séducteur dont elles deviennent l'ombre. Des hommes, prétendant avoir de nouvelles lumières et se disant des réformateurs, exerceront une grande influence sur une certaine classe de gens qui croient aux hérésies en cours à notre époque et qui ne sont pas satisfaits de la condition spirituelle des églises. Avec des couronnes et sincères, ces derniers désirent voir un changement pour le bien, un retour à un idéal moral plus élevé. Si les fidèles serviteurs du Christ présentaient à cette classe de gens la vérité, pure et sans altération, ils l'accepteraient et se purifieraient en lui obéissant. Mais Satan, toujours vigilant, ne perd pas de vue ces âmes qui cherchent. Il arrive qu'un homme se donnant pour un réformateur se présente à eux, comme Satan, déguisé en ange de lumière, se présenta au Christ, et cet homme les éloigne du sentier de la justice. On ne pourra jamais évaluer le malheur et la dégradation qui résultent de la licence. Le monde est souillé par ses habitants. Ceux-ci ont presque rempli la coupe de l'iniquité, mais ce qui aggravera le châtiment, c'est la pratique de l'iniquité sous le couvert de la piété. Le Rédempteur du monde n'a jamais repoussé celui qui se repent sincèrement, quelle que soit l'étendue de sa faute, mais il blâme avec force les pharisiens et les hypocrites. Il y a plus d'espoir pour celui qui pêche ouvertement que pour ces derniers. Veillez et priez. En ces temps de corruption, quand notre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, est à la recherche d'une proie à dévorer, je sens la nécessité d'élever la voix pour dire, veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Beaucoup sont doués de talents remarquables et ils les consacrent au service de Satan. Quel avertissement puis-je donner à ceux qui prétendent être sortis du monde et avoir abandonné ces ouvres de ténèbres ? C'est un peuple dont Dieu a fait le dépositaire de sa loi, mais qui, comme le prétentieux figuier stérile de la parabole, étale ses frondaisons verdoyantes à la face du Tout-Puissant et ne porte pas de fruits à sa gloire ? Beaucoup parmi ce peuple cultivent des pensées impures, livrent leur esprit à une imagination perverse, à des désirs coupables, à de viles passions. Dieu est les fruits portés par de tels arbres. Les anges purs et saints regardent avec horreur ces gens-là, tandis que Satan exulte à leur sujet. Oh ! Si hommes et femmes voulaient considérer les conséquences qui découlent de la transgression de la loi de Dieu. Quelles que soient les circonstances, la transgression est un déshonneur pour Dieu et une malédiction pour l'homme. C'est ainsi qu'il faut la considérer de quelque manière qu'elle se présente, et quel que soit celui qui s'en rende coupable. En tant qu'ambassadrice du Christ, je vous supplie, vous qui prétendez posséder la vérité présente, de discerner promptement toute approche de l'impureté et d'abandonner la compagnie de ceux qui sont animés de pensées impures. Ayez pour ces péchés la plus grande horreur. Éloignez-vous, même dans vos conversations, de ceux qui se plaisent à s'en entretenir. Car de l'abondance du cours, la bouche parle. Comme ceux qui pratiquent ces péchés d'impureté sont toujours plus nombreux dans le monde et qu'ils cherchent à s'introduire dans nos églises, je vous mets en garde, et je vous exhorte à ne leur accorder aucun crédit. Détournez-vous du séducteur qui, même avec les apparences d'un disciple du Christ, n'en est pas moins une incarnation de Satan, un être qui a emprunté la livrée du ciel pour mieux servir son maître. Vous ne devriez pas accorder un seul instant à une suggestion impure et équivoque, car même cela souille l'âme comme les eaux impures souillent le canal où elles se déversent. La mort plutôt que le déshonneur. Choisissez la pauvreté, le blâme, la séparation d'avec vos amis, la souffrance, plutôt que de souiller votre âme avec le péché. La mort plutôt que le déshonneur ou la transgression de la loi de Dieu, telle devrait être la devise de tout chrétien. En tant que peuple réformateur qui se dit le dépositaire des vérités les plus solennelles de la parole de Dieu, nous devons élever l'étendard beaucoup plus haut qu'il ne l'est actuellement. Le péché et les pécheurs devraient être promptement exclus de l'Église afin que d'autres ne soient pas contaminés par eux. La vérité et la pureté exigent que nous fassions davantage pour purifier le camp des Achans. Que ceux qui occupent des positions importantes ne souffrent pas le péché chez un frère. Il faut montrer à celui-ci qu'il doit ou renoncer au péché ou être séparé de l'Église. Quand nos membres d'Église agiront comme de vrais disciples d'un Sauveur doux et humble, il y aura moins d'équivoques et moins d'excuses au sujet du péché. Chacun s'efforcera de se conduire comme s'il était en présence de Dieu. Il se rendra compte que celui qui voit tout a constamment les yeux sur lui et qu'il connaît ses plus secrètes pensées. Le caractère, les mobiles, les désirs et les desseins sont aussi clairs aux yeux du Tout-Puissant que la lumière du soleil. Mais peu nombreux sont ceux qui y pensent. La plupart de nos membres sont loin de se figurer le terrible compte qu'auront à rendre à la barre du tribunal divin les transgresseurs de la loi de Dieu. Vous qui prétendez avoir reçu une si grande lumière, pouvez-vous vous contenter d'un niveau moral inférieur? Avec quel zèle constant ne devrions-nous pas rechercher la présence divine afin de nous rendre compte que la fin de toute chose est proche et que le juge de toute la terre est à la porte? Comment pouvez-vous mépriser les justes et saintes exigences de Dieu? Comment pouvez-vous commettre le péché à la face même de Jéhovah? Comment pouvez-vous nourrir des pensées impures et viles en présence des saints anges et du Rédempteur qui s'est donné lui-même pour vous afin de vous racheter de toute iniquité et de vous purifier pour que vous soyez un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres? En méditant ce sujet à la lumière de la croix du Calvaire, le péché ne vous apparaîtra-t-il pas trop vil, trop dangereux pour que vous le tolériez alors que vous vous tenez sur les frontières du monde éternel? Je m'adresse à notre peuple. Si vous vous tenez tout près de Jésus, avec le désir d'honorer votre profession de foi par une vie bien ordonnée et par une sainte communion, vous ne vous aventurez pas sur les sentiers interdits. Si vous consentez à veiller et à prier sans cesse, si vous agissez comme en la présence immédiate de Dieu, vous triompherez de la tentation et vous pourrez rester pur et sans tache jusqu'à la fin. Si vous conservez votre confiance jusqu'au bout, vous marcherez dans les voies du Seigneur et ce que la grâce a commencé en vous sera couronné de gloire dans le royaume des cieux. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs.